Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast proposé par l'association Morienisez-vous. Sous nos pieds, la Terre raconte une histoire. Une histoire de fer, de gypse, de sueur et de légende. Saviez-vous que la Maurienne a été surnommée la vallée industrieuse, célèbre dans toute l'Europe pour les trésors cachés de son sous-sol? Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses de la fête du gypse à Saint-Pancras. Nous y avons suivi une conférence captivante de Laetitia Léonard, directrice du musée minier du Grand Filon. Au programme de cet épisode, oubliez vos idées reçues sur la différence entre une mine et une carrière. Nous allons voyager dans le temps, de la mystique épée du Randal, qui puise ses origines dans le fer de nos montagnes, jusqu'aux défis ultramodernes du chantier Lyon-Turin. Nous parlerons de la vie de ces paysans mineurs, qui ont façonné notre identité, mais aussi des couleurs spectaculaires et des dangers du monde souterrain. Alors, coiffez votre casque, allumez votre lampe et laissez-vous guider au cœur de la roche mauriennaise. Bonne écoute.
Bonjour à tous. Et je crois que sinon on peut encore plus se rapprocher parce que s'il n'y a vraiment pas d'écran, l'idée ça va être... Sinon, je ferais passer ou j'essaierais de faire des zooms, je ne sais pas, hein. Ma foi. Ah, je peux peut-être mettre quelque chose dessous, un gros livre, un carton, ouais. Ceux-là, vous arrivez à lire. Bon, après, il y a des photos qui sont plus grosses et tout comme ça.
Non, c'est très bien.
Alex, il y a peut-être les serviettes là-haut, ouais.
Oui, peut-être.
Ouais.
Oui, patrimoine.
Ouais. Oui, parce que pour mon fan club, merci à ceux qui reviennent. On a changé un peu, c'est pas la même que l'année dernière. Ou le coussin. Tout. Merci. On va essayer. Voilà, pour pas qu'il chauffe non plus. Ouais. Comme ça. Ouais, mais comme ça, il est derrière. L'inverse. Après, ouais. Là, ça va comme ça. Et le carton, ça sera mieux parce que pour le ventilateur, il faut un truc dur dessous. Non, mais entre les deux, je pensais.
Ouh là là.
Non. Comme que ça. Le carton. Ouais, parce que sinon, le ventilateur, il ne ventile pas avec un tissu. C'est dangereux de mettre un ordi sur un tissu. Ce l'ordi, après, il chauffe. Oui, sinon, deux blocs de gypse. Donc, les cailloux peuvent aussi servir de support, on va dire. C'est ça, quoi. Donc, bienvenue ici. Bienvenue sur la fête du gypse. Et la commande cette année de... Bon, on peut fermer la porte peut-être, oui. Merci. Pour le collectif, c'était de présenter le reste des cailloux de Maurienne et puis surtout aussi comment on travaille à plusieurs. Parce qu'il y en a qui ne savent peut-être pas, qui sont en vacances, il y en a qui ne savent peut-être pas parce qu'ils me disent « Ah, mais j'habite là, mais je ne suis jamais sortie parce qu'on ne prend jamais le temps de visiter ce qu'il y a autour de chez nous ». Et l'idée, en fait, c'est de valoriser un peu le patrimoine de notre vallée, qui est, qu'on le veuille ou non, une vallée industrieuse. Et qui est devenue célèbre et qui l'est toujours dans l'histoire de l'Europe, parce qu'il y a aussi un support, un substrat, qui est différent ici que dans d'autres parties, en fait, de la France, de l'Italie ou de l'Europe. Et c'est pour ça qu'il faut donner un peu d'importance à tous ces cailloux qu'on a sous nos pieds et sur lesquels, des fois, on marche même sans les remarquer, qui nous semblent peut-être normaux, bateaux. Il faut quand même faire attention où on marche, hein, pas se faire mal. Oui, c'est ça. Parce que tous les jours, on marche au même endroit et on trouve que les cailloux, c'est normal qu'ils soient gris comme ça ou un peu blanc là ou un peu rouillé là-bas. Mais en fait, en s'y attachant plus précisément et en creusant un peu, sans le mauvais jeu de mots, on s'aperçoit qu'en fait, ça fait la richesse du territoire. Donc là, on m'a demandé de faire une intervention en une demi-heure, parce qu'il y en a peut-être qui vont à la randonnée juste après. Comme ça, vous pouvez. Ceux qui voudront papoter, on peut aussi. Et je serai sur le stand aussi tout demain matin. Et on aura des bénévoles qui continueront aussi tout demain après-midi à vous expliquer d'autres choses, quoi. Donc l'idée, un peu pour remettre tout ça... Oups, si ça passe, un petit éclairage sur les dessous de la vallée. J'ai fait exprès de mettre des lampes acétylène à l'ancienne pour dire que, bah oui, à l'ancienne, on pouvait aller creuser la montagne. Et on peut encore visiter comment c'est dessous à certains endroits. Mais c'est aussi pour remettre la définition parce qu'il y en a plein qui pensent que les mines vont être souterraines et les carrières vont être à ciel ouvert, alors que pas forcément. Il y a des mines à ciel ouvert et il y a des carrières souterraines. En fait, la différence entre mine et carrière, c'est la substance. Les mines, c'est pour ce qui est stratégique, donc les métaux, le charbon ou le sel. Des fois, dans certains endroits, peut-être un peu les marbres ou les ocres, s'il y a une forte valeur économique. Si le seigneur ou le propriétaire veut sa part dessus, en gros, quoi. Et les carrières, ça va être pour tout ce qui est moins stratégique. Et vous pouvez avoir le droit aussi d'exploiter en direct, suivant les législations et les époques, hein. Donc ça va être des carrières d'ardoise, on dira plus ardoisière, des carrières de sable, de pierre à chaud, de pierre à ciment et de gypse. Gypse, anhydrite, suivant la qualité, on y reviendra, quoi. Parce que c'est un petit peu le thème du week-end. Donc, si on fait un petit tour, juste pour se repérer, parce que est-ce que tout le monde est morianais ? Non. Donc on va repérer la carte de Savoie. Pour savoir à peu près où on est, en général, on vise la poule que forment nos deux rivières. Vous voyez la tête de la poule là, hop, et puis le ventre de la poule là, ça fait nos deux vallées, la Tarentaise et la Maurienne, pour situer sur toutes les cartes géographiques. Vous avez le Léman, un gros lac en plein milieu de l'Europe, et à chaque fois, en dessous, vous cherchez au niveau de l'hydrographie une petite poule, et vous savez que vous êtes en Savoie, ça recale toutes les cartes. Avec des vallées, on se dit, bah oui, on va être à la frontière, ça va plutôt être est-ouest, nos circulations. Des hommes, en tout cas. Par contre, au niveau géologique, on est dans les Alpes internes du Nord. Et du coup, les couches géologiques, elles sont plutôt Nord-Sud. Donc tout ce qui est avant-pays, Chambéry, tout ça, que ce soit Vercors, Chartreuse, Bauge, avant-pays, c'est ce qui est en jaune sur ma carte géologique. J'ai pris les vraies couleurs géologiques, c'est du calcaire. Et après, en fait, en Nord-Sud, on va avoir différentes bandes, parce que les Alpes, elles sont comme ça, et elles continuent d'ailleurs à monter, hein. Et on va plutôt avoir des couches Nord-Sud sous nos pieds. Ça fait que quand on va progresser en Maurienne ou en Tarentaise, vers la France ou vers l'Italie, en fait, on va passer dans différents secteurs géologiques et on va trouver sous nos pieds des cailloux différents, qu'on va exploiter ou pas. Et si on se place au niveau de l'histoire de Savoie et qu'on fait un peu de géopolitique, on va pouvoir contrôler le trafic à travers les Alpes et commercer tout ça. C'est pas anodin. Donc là, je vous ai juste remis une petite intro spéléologique, parce que je fais partie du Spéléo Club de Savoie. Enfin, la différence, cette fois-ci, entre les grottes et les mines et carrières. Une grotte, c'est naturel. Des fois, on dit Aven, puis Balme. La semaine dernière, c'était la fête de la Balme à Colomb, où ils ont trouvé les ours à la caverne. C'est aussi un mot pour dire grotte. Et puis de l'autre côté, on va avoir les mines et carrières. Carrières ardoisières, voilà. Et du coup, autant on a beaucoup de grottes dans les parties calcaires, autant on va avoir beaucoup de mines, plutôt en Maurienne, Tarentaise, Beaufortin, Alpes internes. Voilà, quoi. Donc les communes où il y en a le plus, des entrées de mines et carrières, Saint-Julien-Mont-de-Nid, donc c'est des carrières d'ardoise. Saint-Georges-d'Urtière, donc c'est des mines de fer, cuivre, avec un petit peu d'argent. Et Termignon, il y a quand même une trentaine d'entrées, et c'est des très très anciennes, celles-là qui n'ont pas passé l'époque industrielle. Et sur la Haute-Maurienne, on trouve encore du cuivre, du gypse, des choses très intéressantes aussi. Donc sur tous les territoires, en fait. Et en carte...
Il y a une station d'argent aussi sur
la Haute-Maurienne. Ouais. C'est pour ça que en fait, je vais vous passer zone par zone et comme ça, on va voir les endroits où il y a des métaux, où il y a des pierres de taille, où il y a des pierres à transformer. Et comme ça, on va tous les voir. Donc les plus célèbres pour l'argent, ça va être côté Tarentaise. Il fait tomber l'argenterie en même temps. Merci. Parce que Napoléon, il a mis l'école des mines juste après avoir annexé la France en disant non, mais j'ai mis aussi une école française, la Savoie, voilà. Donc, pour ceux qui sont bien versés dans le sujet, il y a le congrès des sociétés savantes à Moutier cette année, parce que Pézenancroix-Moutier, c'était jublé pour l'école des mines. C'est le 10-11 octobre, et il y a encore des places, c'est gratuit. Donc, c'est tout consacré à l'histoire des mines des Alpes autour de la Savoie, quoi. Donc là, vous voyez moins, mais ça correspond à nos bandes géologiques. On a mis en fait des points de couleur. Par exemple, les mines de charbon, elles vont plutôt être prises dans des couches calcaires parce que le charbon, c'est de la décomposition en fait de bois, surtout. C'est pour ça qu'il y a du méthane, qu'il y a du risou, des choses comme ça, quoi. Alors que là, il y a une autre bande qui était géologique, qui était plus foncée. On va trouver, que ce soit à l'entrée de la Maurienne ou à l'entrée de la Tarentaise ou au début du Beaufortin, des mines métalliques et ainsi de suite. Après, on repassera dans la zone des charbons, dans l'autre zone métallique et vers la Vanoise. avec des cailloux tous différents. Donc voilà, c'est cette carte que je cherchais. Vous voyez, plus clair, moins clair. Les mines, elles vont plutôt être, du coup, plus sur les Alpes, en termes de ce qu'on disait. Donc, la définition de minerai, ce que les mineurs cherchent dans la mine. Normalement, là, tout le monde a le vocabulaire. C'est une roche économiquement intéressante. Ce que me disent les gamins, des fois, quand ils visitent la mine, se dire, madame, ton caillou, là, je le vends, je me fais de la thune. Ouais, t'as compris le principe. Passer à la boutique à la fin. Voilà, c'est ça, non ? Parce que c'est important de remettre cette définition, parce qu'il y en a plein qui me disent, par exemple, dans la mine de fer, mais l'encaissant, c'est du quartz. Mais le quartz, ça peut servir, c'est de la silice. Il y a des entreprises qui l'utilisent. On fait des montres à quartz, même si on ne connaît que le vocabulaire. Je dis, non, pour nous, en fait, ce n'était pas intéressant à l'époque de nos paysans mineurs de l'exploiter. Il faut toujours avoir la notion économique derrière, quoi. C'est la nouvelle option au bac, c'est ASGGSP. Je ne sais pas si vous avez des ados dans votre entourage. Et il y a de plus en plus d'enfants en fait, qui prennent cette option parce que c'est plus soit sens économique, soit histoire, soit géo, avec un petit peu d'histoire et on n'a plus le temps de faire la géo et on ne connecte jamais à l'économie. Maintenant, HGGSP, c'est histoire, géo, géopolitique, sciences politiques. En fait, il faut connecter et avoir vraiment une vue d'ensemble pour savoir à quoi vont servir les cailloux, à quelle époque, et jusqu'à notre époque. Hein. Il y en a qui me disent « cette mine, elle est fermée depuis quand ?» ou « depuis quand ?» ou « depuis quand ?» En fait, la vraie question, c'est quand est-ce qu'elle a failli rouvrir ? La dernière fois, pour certaines mines, c'était dans les années 70, quand j'étais petite, il y avait déjà eu un choc pétrolier. Ça rappelle un peu l'actualité d'aujourd'hui, en fait. Donc la notion de minerai, c'est vraiment une roche qui est économiquement intéressante à un moment, suivant le territoire. La nomine, pour un comte ou un duc qui a envie de battre monnaie, il a dû faire de l'argent du cuivre sur place, il bat monnaie, il devient comte, duc, roi de Piémont-Sardaigne. Après, c'est toute la notion, il y a une conférence il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si elle a été captée à Chambéry, sur la notion d'un minerai, est-ce qu'il est intéressant ? Est-ce qu'il est en tension ? Est-ce qu'il est rare ? Peut-être qu'il est intéressant pour vous. Moi, j'en ai plein. Je ne sais plus quoi en faire. Ça... Peut-être que c'est en tension parce que je ne veux pas vous le vendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il est rare dans un autre endroit, en fait. C'est toute la géopolitique. Et au niveau mondial, il y a trois pôles. Un qui est tenu un peu par les Chinois, l'autre par les Américains et l'autre par les Européens. Et les substances, elles ne sont pas forcément en tension ou rares ou recherchées, suivant en fait si on a des réserves ou pas, ou si on est en bon terme avec ses voisins pour les échanger ou pas. Et en gros, il y en a quelques-unes qui sont vraiment au cœur des tensions parce que tout le monde les veut et qu'il n'y a pas beaucoup de réserves. Ou alors qu'on a des réserves mais qu'on n'a pas la chaîne pour les transformer. Parce que même si on rouvre à l'heure actuelle, on pense à la mine de lithium dans le centre de la France, il faut attendre encore au moins 10 ou 12 ans pour qu'ils construisent des usines de traitement qui vont avec. Parce que sinon, on peut exploiter la mine pour exploiter la mine, mais si on n'a pas la chaîne qui va derrière, on manque en fait toute la valeur ajoutée qui est derrière. Et on attend. Pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui vont faire monter les cours ailleurs parce qu'eux, ils ont pris de l'avance. C'est vraiment de la stratégie. Vous croyez faire de la géologie aujourd'hui ? En fait, non. On fait un cours de géologie. Si je vous fais continuer, on a des... Oui, ça aurait été mieux en vrai, mais vous pouvez retrouver sur YouTube des exploitations anciennes. Il y a le département qui a fait faire des fouilles aux archéologues dans les mines de la Colombière. Donc, si vous allez sur le site du patrimoine, de la conservation du patrimoine de 73, vous allez retrouver ce petit film qui explique que les archéologues en fait, retrouvent des traces très, très, très anciennes. Alors, il y a des tags là, de 1795, mais c'est des tags vraiment début préhistoire aussi, et des exploitations sur Bramant. Alors que Bramant, on se dit, ça a dû être occupé en dernier, s'il y avait encore des glaciers. Non, non. Dans les écrits, on a des traces depuis l'époque romaine. C'est Pline, l'ancien. Repris par Pline le Jeune, après. Les Alpes sont très, très connues, déjà pour le cuivre et le bronze à la préhistoire. En ce moment, il y a une belle exposition au musée savoisien sur l'âge du bronze. Et puis, il y en a qui sont beaucoup plus récentes. Les dernières, c'est les années 70-80. Il y en a, vous les avez peut-être déjà vues au bord du chemin. Parce que là, à Bramant, la carrière de gypse, on voit les gros trous comme ça quand on est au bord de la route principale. Là, c'est quand on passe entre Saint-Jean et Saint-Michel-de-Maurienne.
Calypso, là.
Ouais, la Calypso, on les voit bien, les trous. On devine même les conduites à l'intérieur. Pierre à chaux, pierre à ciment, voilà quoi. Bah, sur le stand demain, je vous ramènerai le gros livre pour faire commune par commune si vous voulez regarder chaque substance et tout, quoi. On les a, quoi. Donc là, si je vous fais voir quelques photos, je ne sais pas si ça rendra, mais sinon, on prend le temps de le refaire à la fin. Donc on a fait l'inventaire de toutes les mines et carrières souterraines avec le Spéléoclub de Savoie, sous couvert du Spéléoscours français pour savoir où elles sont. Parce que dans l'actualité, vous avez peut-être déjà vu, il y a moins d'un mois, là, à Chambéry, un gars qui coupait l'herbe dans son jardin, il y avait un trou de 2 mètres. Puis le lendemain, c'était 4 mètres. Et puis le surlendemain, c'était 8 mètres. Et puis en profondeur aussi. En fait, il était sur l'entrée de la carrière qui a soutiré, quoi. Voilà. Et donc le maire a répondu, vous inquiétez pas, ça fait 11 ans qu'on a le plan, que le Spéléoscours nous a fourni le plan parce qu'on leur avait demandé. Et ils savaient exactement quelle partie de la mine et quelle profondeur et combien de camions ramener pour reboucher le trou. Et ils savaient très bien, d'ailleurs, ils nous l'avaient fait faire à l'époque quand on a refait la révision du plan d'occupation des sols pour voir si c'était constructible plus loin ou pas. Et il y a quelques maisons qui avaient leur jardin sur l'ancienne implantation de la carrière, mais il n'y avait pas de maison dessus. Et c'est pour ça que ce n'est pas constructible plus loin, d'ailleurs. Et heureusement. La baisse, c'est de la pierre à chaux, là-bas. Mais l'année d'avant, c'était une route tarentaise, je ne sais plus où ça montait. Et c'était au bord aussi de la route, et du coup, ça s'est tout effondré au bord de la route. Et du coup, on nous a demandé de recalquer tous les plans de mine qu'on avait fait comme ça sur les réseaux routiers, et pas que sur les plans d'occupation des sols. Donc ça a été fait aussi. Des fois, on oublie. Hein. L'autoport qui monte au tunnel du Fréjus aussi. Il y a un des piliers, il mettait plus de béton que les autres. Puis beaucoup plus, beaucoup plus. Puis ils se sont dit, bon, c'est juste qu'il faut mettre plus de béton dans ce pilier. Et puis, je ne sais plus, c'était 8 ou 10 ans après, il y a un énorme ruisseau tout rouillé, tout orange, qui a dévalé dans Modane pendant 3 jours. En fait, avec le pilier supplémentaire, ils étaient en train de boucher une mine. Et puis ça s'est chargé en eau. Et puis ça a commencé à se déliter. Voilà. Et puis au bout d'un moment, c'était trop en eau, c'était pas prévu pour un trimbarrage. Et puis ça a pété, ça a vidangé. Mais bon. Donc c'est pour ça qu'on a des données et des photos, en fait, et qu'on les tient à jour sur toutes les mines. Donc là, je ne sais pas si ça va vraiment beaucoup rendre. On fera passer l'ordinateur à la fin. Sinon, je l'ai en version gros livre sur le stand demain, si vous voulez regarder par rapport à chacun. Parce qu'évidemment, suivant les roches, on va avoir des couleurs plus ou moins jolies. Et c'est là qu'en général, on fait « waouh ». Alors, si on est dans le zinc, on va être sur des blancs, bleu clair. Si on est dans des cuivres, ça va plutôt être sur des bleus, verts, azurite, malachite. Si on est dans tout ce qui est ferreux, on va être sur du orange clair, linarite, plus rouillé après. Et puis, dans le cas de la mine de fer des Urtières, c'est mélangé à du manganèse. Donc, on va sur les violets noirs, quoi, carrément. Et du coup, ça nous fait découler un petit peu les couleurs, quoi. Évidemment, dedans, il y a aussi toutes les substances qui vont avec. Donc, des fois, il y a de l'or, mais des fois, il y a de l'arsenic. Donc, il faut faire attention aussi à ce qu'on fait. Et tous les gaz de décomposition qui vont avec. Parce qu'une mine abandonnée, ça ne s'improvise pas à visiter. S'il y a des boisages dedans, des choses abandonnées, et que les roches ont continué à se décomposer, à certains endroits, en marchant dans une flaque d'eau, on peut évacuer des gaz et puis se mettre en danger. Donc tout ce qui est exploration souterraine, c'est vraiment par des gens qui sont des spéléologues avertis en fait, vraiment aux dangers différents. On n'est pas dans une grotte, on est dans une mine et ça évolue pas pareil. Et du coup, ça nous fait des beaux reportages et des connaissances aussi pour ceux qui sont en surface. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est l'argent. Argentine, la seule commune qui s'appelle Argentine, qui est au début de la vallée, c'est la seule de France. Parce qu'il y a des argentières ailleurs. Et ça brille comme de l'argent, ouais. Et des beaux lacs très, très, très bleus. Waouh, plein d'arsenic, ça va bien avec. Ouais. Du talc aussi. Parce que quand je dis on a toutes les couleurs, toutes les substances, on a aussi toutes les duretés. Hein. Donc du talc qui s'effrite sur lui-même jusqu'au... Non, on n'a pas le diamant. Il faut qu'on travaille ça. Peut-être qu'on recherche sur l'échelle de dureté des minéraux, hein, qui va de 1 à 10, c'est le talc le plus friable. Donc ce qui est plus à regarder de près, mais vous verrez tout à l'heure peut-être, c'est le nombre de boisages. Parce qu'il faut boiser à gauche-droite comme d'habitude, mais aussi au plafond, mais aussi au sol pour pas que tout explose. Très, très dangereux. Après, on va sur les gypses ou les ardoisières qui n'ont pas une bonne tenue mécanique. Et puis, jusqu'aux mines de fer, nous, on est déjà à 7 sur 10, c'est déjà pas mal. Hein. On a vraiment de tout. Et du coup, on a des paysages très différents entre des très friables comme ça et des très costauds. Comme on disait, avec les plans, soit d'époque, soit plus récents. Mais là, ouais, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais. Avec aussi, de temps en temps, du matériel minier dedans. En général, c'est plus profond. Parce que si on va juste se balader, bah, comme au début des sentiers des mines ou des ardoisiers, on va encore voir quelques vestiges, mais vous vous rendez bien compte que c'est plus facile en fait, de reprendre ce qui est près des portes pour le referrailler et l'emmener ailleurs que d'aller le chercher loin. Donc si on veut vraiment des reportages comme ça, comme certains ont été faits, c'est qu'il fallait faire les photos plus loin. Sans se perdre. Je ne sais pas si vous voyez un peu les labyrinthes dans tous les sens. Et sans faire tomber les murs d'époque. Et puis, une donnée qui est importante aussi, c'est que la nature reprend ses droits. Donc, je ne sais pas si vous voyez en vous posant. L'eau continue à circuler. À des moments, il y a un petit peu de calcaire avec, plus ou moins, hein, suivant les zones géologiques où on est. Et en fait, ça redépose un peu de calcaire qui s'est chargé ou pas en minerais, en minéraux dissous, je veux dire, plutôt. C'est des minéraux qui se concentrent pour faire des minerais. Et du coup, des stalactites, il y en a des blanches si elles sont passées dans rien, des rouges si elles sont passées dans l'eau est passée dans les gisements de fer ou de cuivre. On a vraiment toutes les gammes aussi, quoi. Donc là, vous la verrez pas parce que c'est la recherche pour l'uranium. Mais bien sûr, on sait qu'il y en a. Mais quand on se remet sur la définition du minerai, il y en a toujours. Mais est-ce qu'on choisit, dans notre société actuelle, est-ce que c'est suffisamment en tension, suffisamment intéressant ? Et c'est quoi l'impact socio-environnemental ? C'est quoi la nécessité pour l'ouvrir ou pas ? Là, c'était dans les années 80 que ça a été recherché. Il y a tout de suite tous les panneaux non à l'exploitation de l'uranium en Maurienne. Donc, je la ferai. Du coup, il y a bien la recherche, mais il n'y a pas l'exploitation. Et pour ne pas se mettre en danger, on n'y a pas été. De toute façon, c'est muré. Hein. On est d'accord. Donc du plomb argentifère sur la chambre Montvernier, côté plus quand on monte dans la Maurienne, vous avez peut-être déjà vu le wagonnet qui est dans le rond-point à la sortie de la chambre, ou à l'entrée de la chambre, c'est bon, dans quel sens ? Voilà, c'est à Saint-Avre. C'est à Saint-Avre la chambre. Le wagonnet tout noir comme ça pour symboliser. Oui, du plomb et du zinc. Saint-Jean-de-Maurienne, ça m'étonnerait que vous l'ayez vue parce qu'elle est complètement verticale, elle est au-dessus de la piscine. Quand vous descendez de la vallée, vous pouvez regarder la montagne, on voit une grande fracture. C'est un puits de 800 mètres quasiment. Et la mine, en fait, qui est juste à côté pour le plomb argentifère, elle est complètement verticale aussi. Elle ressort juste derrière la piscine. C'est éboulé en bas. Mais sinon, pour y aller, il faut vraiment être dans la montagne. Il y a des filets autour pour pas que les gens tombent dedans, et sinon il faudrait des cordes. Ça veut dire qu'à l'époque, ils se donnaient les moyens d'exploiter hein, aussi. Sur le secteur Saint-Jean-de-Maurienne, il y a deux parties. La partie où on est plutôt pour le gypse, et sur le côté en face, un tout petit peu en décalé avec Villargondran, Saint-Julien-Mont-de-Ny, c'est tout ce qui est ardoisier. Donc là, pour le gypse, je ne sais pas si vous voyez le petit trait jaune là et là, je vous l'ai remis avec ce monument aux morts parce que là vous allez avoir beaucoup d'explications sur la façon dont on fait actuellement avec les prises en compte environnementales, le suivi des ouvriers, comment on se met en sécurité. Mais il faut savoir que les premières exploitations elles étaient souterraines, donc en fait là c'est le report du petit train qui était dessous et des carrières qui étaient souterraines. Et c'est là qu'il y a eu des morts. Et ce monument aux morts qui est dans le virage de la tour de la Fournache, c'est le seul de Maurienne qui n'est pas dédié à une guerre. C'est parce que les hommes sont restés dessous.
Ce sont des exploitations rive droite.
Voilà. Tout ce qui était rive droite, c'était souterrain. Et on peut vraiment faire la différence entre ce qui était à l'époque et ce qu'on a maintenant, qui n'est plus du tout la même chose, un ciel ouvert. Donc là, en plus, vous avez les panneaux de l'extension. Ça a été mis à jour aujourd'hui pour ceux qui ont fait la visite la dernière fois. Sinon, il y a des visites demain. Il y a aussi des notions de nécessité qui changent et de conditions de travail qui changent avec le temps, heureusement d'ailleurs. Donc là, on a mis quelques points, je ne sais pas si vous voyez, par rapport aux ardoisières. Le sentier des ardoisiers, il passe complètement sur la droite. Hein. Et puis le char d'océan, il a été dynamité entre-temps. Et c'est pour vous donner une idée du nombre en fait, de points de partout. C'est chaque entrée en fait, de chaque propriétaire, avec chaque carrel qui descendait ses ardoises, qui était réputée, qui était de bonne qualité et qui ont pourtant été cessé d'être exploitées. Pas parce que c'était plus rentable cette fois-ci, mais parce que plus personne voulait y travailler. Donc quand on dit qu'on est à l'heure actuelle au plein emploi en Maurienne, on est à peine à 2% de chômage. Est-ce qu'on aussi on trouve des gens qui continuent à vouloir travailler dans nos industries maintenant ? Est-ce qu'il y a du chômage technique ? Est-ce qu'on arrive à recruter ? C'est vraiment des questions encore actuelles. Pour creuser encore des tunnels actuellement, même si ce n'est pas pour prendre les roches, mais c'est pour faire du passage. Dans les mêmes roches. Donc là, le sujet, on a eu la chance en fait, de pouvoir avoir un service civique encadré par Morganisez-vous. Donc c'est Valentine Bello qui, à l'époque, en fait, a pu interviewer tous les anciens ardoisiers pour qu'ils puissent encore nous raconter leurs conditions de travail. Donc ça, mémoire d'ardoisier, c'est vraiment une capsule temporelle qui a été réalisée. Il y a des reportages qui sont de durée moyenne, que vous pouvez tous visionner, ils sont en ligne. On le remet à disposition quand on fait des expositions. Et puis, il y a aussi tous les rushs et les interviews complètes pour les chercheurs, les étudiants, s'il y a besoin. Ça, les témoignages, on les a encore. Bah, sur Morganisez-vous, on les trouve sur YouTube, en fait. Ouais. Peut-être sur Morgan TV en double. Ouais, sûrement. Et puis, je vous ai mis la photo donc, des anciens ardoisiers. Et puis aussi, on la retrouvera un peu plus tard, on en reparlera, de celles qui sont dans les musées pour les valoriser. Si on continue notre petite remontée de la vallée sur Saint-Michel, Aurel, Fourneau, donc on a encore passé une autre zone géologique. D'ailleurs, ça s'appelle Fourneau, mais parce qu'on faisait chauffer quelque chose. Et du coup, là, on avait l'anthracite. On voit encore des vieux wagonnets, des fois en bois, des fois en métal. Et l'équivalent sur la Tarentaise, parce que là, je mets les photos de Maurienne, mais c'est la Plagne, les mines de charbon de la Plagne. Alors peut-être vous avez déjà skié à la Plagne. Maintenant, il y a un petit musée, mais c'est récent. Et puis surtout, ce que les gens oublient, c'est qu'à l'origine, la piste de bobsleigh de la Plagne, c'est les anciens mineurs, hein, parce qu'ils avaient le savoir-faire pour redescendre en luge qui le descendait. Donc là, pour une mine de charbon, on a fait le plan en noir. Pareil, dès qu'il y a une petite veine, on y va, on la prend. Ce n'est pas forcément des industries... récente, moderne et, j'allais dire, structurée. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a Valmeignier, il y a un livre qui est sorti là, le mois dernier sur les mines de charbon aussi. Bon, après, c'était plus... ouais, je ne sais pas s'il a été tiré en grand exemplaire, mais s'il y en a qui voulaient creuser la question. Et c'est justement, il montrait que dans les années 50-57, je crois, la dernière année, il y avait encore de l'exploitation du charbon sur le secteur pour chauffer les écoles. Ce n'est pas anodin pour les budgets de petites communes, hein. Au début, on parlait du comte de Savoie qui bat monnaie et voilà, qui devient riche. Mais même pour les économies encore locales, ça peut être très, très intéressant, quoi. Donc là, il y en a qui me disent, mais quand même, tu es au bord d'un gros trou et tu n'as pas de baudrier. C'est pas un trou, c'est un lac. C'est juste l'eau, elle est noire. C'est du charbon. Sinon, bien sûr, j'aurais un baudrier, je serais en sécurité. C'est de l'eau noire. Donc là, ça pose une question sociale aussi, parce qu'il y en a qui me disent c'est comme au nord, il y avait les corons. Non, ce n'est pas le cas. Hein. Il n'y a pas de grande industrie paternaliste, à part l'industrie Schneider, vraiment sur les mines des Urtières. Ça veut dire que chacun, en fait, avait ses habits, son mode d'éclairage, et rentrait chez lui comme ça, et se changeait chez lui, et prenait tout à charge. Parce que sinon, dans les grandes mines qu'on a du Nord, on a un peu les références. Ils passent tous à la salle des pendus, ils suspendent leurs affaires de la mine, ils prennent tous la douche, ils rentrent chez eux. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment, il faut imaginer une activité complémentaire à ce qu'ils font déjà dans la vie, que ce soit à l'usine ou en paysan, et qu'ils se débrouillent avec les moyens du bord, pour la plupart. Hein.
Le minier comme à Sarrazin, mais quand même,
ouais.
Des baraques.
Alors,
oui. Qui ne redescendaient pas de l'usine.
Oui, oui, oui. Moi, je l'ai mis, je crois, la mine des Sarrazins après, parce que là, on était, j'allais dire, en Basse-Maurienne ou alors la Chambre, Saint-Avre, on est encore en fond de vallée. Là, ça commence à monter. Et quand on est sur le secteur des Sarrazins, donc la pointe des Sarrazins, la mine, elle est quasiment en dessous du col des Sarrazins. Alors, il y en a qui me disent c'est la plus haute d'Europe, non, de Maurienne. l'équivalent de l'autre côté, vous voyez les lacets de l'Alpe d'Huez. Même si vous n'avez jamais été à l'Alpe d'Huez. La station de l'Alpe d'Huez. La mine, elle est en haut de l'héliport. Et à l'époque, il n'y avait pas la route qui allait. Et ça, c'est la mine d'argent des dauphins du roi de France, les Français là-bas, et une mine de charbon aussi qui est là-haut. Et pourtant, ils y allaient. Donc, quand on revient à la définition de minerai, quand la nécessité fait loi, on va le chercher. Et effectivement, dans ces cas-là, plutôt que de faire des montées-descentes dans la neige, c'est pas possible, on embauche des gars, des manœuvres à la saison, et puis on leur construit des baraques en haut. Et en fait, c'est la chaleur de la mine, s'il fait 2 ou 6 degrés, qui chauffe la baraque qui est vraiment accolée à la sortie de la mine. Comme ça, s'il fait moins 20 dehors, eux, ils sont ravitaillés en nourriture par câble, mais ils restent vivre là-haut, effectivement. Donc là, bah, oui, je vous l'ai mis, la mine des Sarrasins, il me semblait bien. On voit encore l'ancienne baraque. Il y a un moment, on voit l'entrée de la maison. Et évidemment, il ne faut pas aller dans la mine. Il y a la petite fontaine, là, on peut la voir, ce n'est pas dangereux, mais plus loin, en fait, ça l'est. Tout simplement, là-bas, ce n'est pas parce que le plomb argentifère, l'encaissant ou la roche va être plus ou moins costaud, comme c'était le cas des ardoisières, où ça peut tomber, ou le talc, qui est friable. Là-bas, le problème, c'est que la mine a été creusée dans le permafrost, pergélisol, je ne sais jamais comment on dit en français, en anglais, dans une roche qui était gelée toute l'année. Mais maintenant, il y a le réchauffement climatique. Ça fait que ça ne reste pas gelé toute l'année. Et il y a les trois quarts en fait, des galeries qui se sont effondrées parce qu'elles ne se maintiennent plus par rapport à l'altitude. De toute façon, elle était déjà marquée gazée à l'époque. Il n'y avait pas toutes les circulations d'air. Donc en plus, avec les effondrements, ce n'est vraiment pas celle où il faut y aller. Et heureusement, à l'époque, on avait déjà fait des photos. Là, c'est des charrettes à porteurs. Non, je ne dis pas charrettes, brouettes. Non, caisse. Il n'y a pas de roue. Rien que la caisse, en fait, déjà, elle fait son poids, donc je mettais les cailloux dedans. Il ne faut pas s'imaginer les mêmes rythmes de travail, en fait, c'est les mêmes réalités, je pense que maintenant, quoi, c'est inconcevable. C'est vraiment pas la même chose, quoi. Donc, ce que je vous disais, ouais, par exemple, la galerie qui est marquée Galerie des Joyaux, c'était toute l'année de la glace, en fait, à l'intérieur, alors que maintenant, bah, ça ne l'est plus. Et puis, si on retourne sur la Haute Maurienne, donc ce que je vous disais qui existe en vidéo, c'est les archéologues qui se retournaient à Bramant, donc le cuivre. Donc là, c'est la grotte mine de la Columbia. C'est évidemment, il y a des exceptions. Des fois, il y avait des grottes naturelles qui ont été re-remplies d'autres choses, par des glaciers, par des remplissages. Donc, il pouvait être des grottes naturelles recreusées par les hommes, quoi. Donc celle-là, celle de la Columbia, elle est bien connue depuis longtemps, quoi. Donc si on a fini notre petit tour, il n'y a plus qu'à se demander... Est-ce qu'on creuse encore aujourd'hui? Et pourquoi? Donc là, nous, sur le secteur des Urtières, on a une dame, ça fait 3 ans qu'elle fouille les archives, elle sort un livre, La fièvre du cuivre, pour montrer que dans les années 70-80, ça a failli rouvrir en fait, l'exploitation de la mine de cuivre des Urtières et la mine en Beaufortin. À l'époque, ça titrait dans le journal Le Katanga français. Bah oui, dans les années 1970, juste après la décolonisation, et puis avec les deux chocs pétroliers, on se demandait comment on allait faire avec les ressources de France métropolitaine. Et ça a failli rouvrir. Et puis des fois, on recreuse aussi, soit pour capter l'eau, soit pour encore faire des tunnels. Mais du coup, comment valoriser, il ne faut pas dire déchets, il faut dire résultat d'excavation. Parce que même pour creuser le tunnel Roalpin, de Lyon à Turin, TELT. Je crois que c'est 70% en fait des roches qui sont censées être réemployées pour réinjecter dans les bétons. Mais les ardoises qui ont été décaissées au même endroit qu'avant on prenait les ardoises, elles n'ont pas forcément été valorisées. Ou alors on le valorise d'une façon patrimoniale. Donc c'est là aussi sur lequel la chose on voulait arriver avec la démonstration d'aujourd'hui, c'est qu'on a créé en fait un collectif de valorisation de tout ce qui était patrimoine géologique et minier en Maurienne, parce qu'il n'y a plus de réseau des musées, et puis on s'est dit autant le faire à plusieurs. Donc si vous connaissez, il y a le sentier des ardoisiers à Saint-Julien-Mont-de-Nil, il y a le rond-point ardoisier, maintenant il y a un jeu de piste pour enfants qui va avec sur Saint-Julien-Mont-de-Nil. De l'autre côté, l'écomusée de Montrichet. Donc là, avec Morganisez-vous et les bénévoles, on a interviewé aussi les gens qui ont monté cet écomusée, parce que dans la partie haute, il y a les habitations et les traditions populaires. Mais dans la partie basse, en fait, c'est une ardoisière reconstituée. Et on explique les métiers des ardoisières. Il y avait des ardoisières à Villargondran aussi. On a dit qu'on ne faisait pas trois musées. On se met en réseau. Pour la partie gypse, eh ben, avec notre collègue, on a mis en place les visites guidées. Et puis la fête du gypse, qui nous réinvite chaque année. Merci. Et puis pour tout ce qui est mine, plutôt fer, ça va être le secteur fer, cuivre, métaux, sur le musée du Grand Filon, en Porte de Maurienne. Quoi. Et ensemble, en fait, on explique les métiers d'hier à aujourd'hui, les enjeux d'hier à aujourd'hui. Donc là, on espère que le musée de la Traversée des Alpes, s'il se remet bien, nous rejoigne aussi dans le collectif, hein, pour creuser. Et puis, de temps en temps, du coup, des opérations conjointes, par exemple, les journées portes ouvertes du chantier pour faire l'entrée du tunnel. Donc, c'est le numéro 8, le CO08. Des expositions qu'on s'échange et on est en train de fabriquer une mallette pédagogique qui puisse aller dans les écoles. S'il y a des endroits qui ne se visitent pas et on voudrait expliquer ça aujourd'hui. Donc, on s'est conjointement avec aussi la mission locale jeune pour expliquer les métiers qui recrutent aujourd'hui aux gens. Parce que c'est pas parce qu'on pense un mineur qu'il n'y a pas tous les autres métiers autour. À l'époque des mines de fer et cuivre des Urtières, c'est 400 mineurs, 1800 personnes qui en vivent. Et là, dans le chantier de Lonturin, il faudrait demander le ratio exactement entre ceux qui minent ou qui creusent et tous les métiers annexes d'analyse, de sécurité, de traitement. Et puis, il faut aussi des gens qui font à manger, il faut des docteurs, il faut des maîtresses. C'est toute l'économie locale, en fait, qui est impactée, quoi. Donc là, du coup, c'est illisible. Je vous ai bien remis tout ce qu'il y a à faire au niveau des ardoisiers, du musée du fer. Dans le cas du Grand Filon, c'est soit parti à visiter musée, village des mineurs, c'est vraiment faisable pour tout le monde, et soit la partie sportive pour aller voir les mines plus loin. La fête du gypse qui nous réinvite. J'ai fait exprès de mettre l'affiche pas d'aujourd'hui pour montrer qu'on continue tous les ans. Ouais, j'avais dit que je finissais pour la rando. Et on a fini le tour, ouais. Et puis, on vous invite du coup à voir tout l'été la malle pédagogique, l'exposition en fait, qui explique ça. Et, du coup, vous aurez plus d'images que là. Si vous venez à l'exposition temporaire du musée, donc en accès libre, mais aux horaires d'ouverture du musée, du coup, à Saint-Georges-d'Urtières. Donc là, on a mis la liste un peu de tous nos partenaires. On espère de plus en plus impliquer des entreprises et aussi des politiques. Et comme je vous disais, la mission locale jeune, des associations aussi qui nous suivent. Ici, c'est une association, hein, le comité des fêtes de Saint-Pancras. Il y a aussi les écomusées, bien sûr. Et puis l'association Morganisez-vous qui nous a fait nous rapprocher et qui sert à ça, en fait, à rapprocher les gens et à faire connaître, valoriser la vallée. Si vous voulez aller plus loin, du coup, on aura les livres sur le stand demain. Et puis, il y a tout ce que je vous ai cité comme vidéo. Et puis, comme on n'a pas vu grand-chose là, si vous voulez me laisser votre mail, je peux vous l'envoyer, en fait, pour que vous puissiez regarder les photos peut-être un peu mieux aussi, quoi. J'avais dit que je faisais plus vite que d'habitude, parce qu'il y en a qui partaient. Mais si vous voulez qu'on regarde là maintenant, ou s'il y a plus de questions, je sais, c'était la dernière, hein, ouais. Ça sera mieux comme ça, quoi. Je remets la première. Donc bonjour, je m'appelle Laetitia. J'aurais pu commencer par ça, en fait. Voilà, quoi. Donc moi, depuis 2 ans, 3, je suis directrice du musée minier, mais à la base, c'était mon job d'été dans mon village. Moi, le grand-père de ma grand-mère était mineur. Et j'ai découvert le sport, la spéléologie, donc le seul sport qui allie découverte du milieu et science, quand j'ai commencé à travailler là-bas. Donc maintenant, je suis membre du Spéléoscours français. Et on tient à faire beaucoup de prévention, parce que la grande tendance en ce moment, c'est je pète le cadenas et je veux faire une belle photo à mettre sur Instagram ou TikTok. Et on tient vraiment à faire de la pédagogie là-dessus, en disant si un cadenas, c'est pour, c'est pas pour empêcher tout le monde d'y aller, c'est parce qu'il y a un risque et qu'on veut que les gens en fait, rentrent en toute sécurité, en sachant, en connaissance de cause. Si c'est des gens qui font des reportages dans toute la France et ou qui veulent nous aider à tenir l'inventaire, au contraire. Au contraire. Donc l'année prochaine, c'est prévu aussi des études biospédéologiques, des exercices spéléoscours, parce qu'on n'imagine pas la Savoie comme un département minier. On pense à ce qu'il y a plein de grottes, il y en a plein dans le Granier, il y en a plein dans les Bouges et tout, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de mines. Quoi.
Combien de kilomètres de galerie ?
Ouh, là, là, j'ai la... un millier d'entrées. Avec des communes où il y en a 50, 60.
Elles sont toutes répertoriées, les mines, oui. Hein, en savant toutes.
Donc on a fait l'inventaire entre 2000 et 2002 pour la première version du livre, avec Robert Durand, le très gros, là, où il y a vraiment beaucoup d'images. Et on a fait la mise à jour 2005, il me semble. Donc dans le premier, c'est marqué, il y a environ 800 entrées de mines, et dans le deuxième, il y a plus d'un millier de mines, 1100, je crois. Et on a fini de faire le tour des archives. Il y a des gens qui nous renvoient des choses. Vous connaissez ça, il y a un trou dans mon jardin. Et on essaye de construire le Club Med. On ne peut pas, c'est tout mou en dessous de Valois. Ah bon ? Bah oui, il y avait des mines de charbon en dessous. Et en général, on les a. Ouais. Où c'est vraiment des toutes petites galeries. Mais on prend tous les renseignements et tous les explications de mouvements terrain pour tenir nos fichiers à jour. Ouais. En général, c'est des animaux qu'on nous envoie chercher dans les fissures. On espère que ça ne soit pas des gens. Quoi. Pas se mettre en danger. C'est toujours l'aventure minière, mais que ça soit une belle aventure. Quoi. Si ça vous intéresse, le syndicat de Pays de Maurienne a mis en place une extension de la Biennale de Maurienne. Et du coup, nous envoie la Compagnie du Chien Jaune la semaine prochaine. Donc, il y a un double spectacle, jeudi soir et samedi prochain. Donc les deux spectacles, vous pouvez en voir un ou l'autre ou mis bout à bout. Et c'est la Compagnie du Chien Jaune avec des acteurs, des chanteurs locaux en fait, qui fait un grand spectacle historique pour expliquer le patrimoine minier, notamment des mines métalliques de Maurienne. Quoi. Donc le jeudi soir, c'est autour du musée d'Argentine, en bas, parce que il y avait des mines d'argent, puis il y avait les propriétaires des mines des Urtières qui habitaient à Argentine, de toute façon. Et samedi, ça sera au Grand Filon, c'est tout gratuit, et il y aura à manger et à boire. Parce que, quand même, effort et réconfort, on a dit. Hein. Voilà. Ben, là aussi, c'est les associations qui nous aident à trouver des gens qui veulent faire du théâtre, voilà, et qui ont à cœur d'animer tout ça. Quoi. Donc, pour les chiffres exacts, ben là, je l'ai en nombre de cavités, mais je ne l'ai pas en nombre de kilomètres. Il faut que je ramène le livre demain. Mais par exemple, les grottes les plus célèbres dans le Mont Granier, tout le monde voit le Granier là, au-dessus de Chambéry. Ça fait 3 km carrés. Il y a 60 km de galeries dedans, sur plusieurs étages. Nous, rien que la mine de Saint-Georges-d'Urtière, c'est quasiment 22 km d'un seul tenant. Il y a 50 entrées sur 500 mètres de dénivelé. Dedans, il y a 700 carrefours. Pour faire le plan, on a mis une quarantaine de journées. C'est à peu près ça, quoi. Il faut y aller tranquillement. Voilà, c'est ça, quoi. Après, ça, c'est de la passion. Il faut être dans son élément, quoi. Comme on dit, le forgeron qui vient faire les démonstrations de forge, il tape toute la journée à l'usine. Il fait une heure de route en plein cagnard quand il sort de l'usine. Il fait 35 degrés, il allume la forge et il tape 3 heures pour se détendre. Il n'a jamais mis les pieds dans la mine. Ouais, non, mais j'irai la prochaine fois. C'est pas son élément. Lui, son élément, c'est le feu. Il y a des gens qui me disent « j'ai peur de la spéléo », comme il y en a qui me disent « j'ai peur d'aller mettre la tête sous l'eau ». Alors que moi, la spéléo, bah, justement, je trouve que c'est coupé du monde, c'est posé, on doit réfléchir aux éléments parce qu'on n'est pas en milieu dangereux, on est en milieu isolé, qu'on apprend à apprécier, à respecter. Et ça nous remet, je pense, les idées en place par rapport aux éléments et à la montagne et à ce qu'on en fait. C'est ça qu'on essaye de faire passer au musée. C'est vraiment chacun son ressenti, quoi. Il y en a qui font leur métier, il y en a qui font leur passion, il y en a qui aiment bien se faire peur avec, ou se rassurer. On peut y aller avec le doudou. Hein. C'est ça. Non, mais de temps en temps, on est là aussi pour, en tant que structure publique, pour, sur ce musée-là, animer le territoire. Et du coup, on invite à être paysan mineur à des dégustations. C'est pour ça que je disais qu'il y avait à manger. Mais ça peut être des auteurs aussi. Et on a eu l'année dernière en résidence Alex Gros qui nous a présenté « Lapinours, sa peur du noir ». Et il faisait la lecture de son livre pour enfants dans le noir. Et on pouvait venir avec le doudou pour voir si on avait vraiment peur du noir ou pas, s'il y a des contes et légendes qui sont vrais ou pas, s'il y a vraiment des monstres dans le noir. On fait de tout petit au plus grand, parce que je vous dis, si vous voulez noter, le 10-11 octobre, voilà, il y a le congrès des sociétés savantes avec toujours des recherches scientifiques. Nous, on a eu des datations de boisage pour prouver que la mine des Urtières, c'est à peu près déjà au moins depuis l'âge romain. Mais il y aura encore voilà, de la biospéléologie à rajouter l'année prochaine.
Les plus vieilles carrières, c'est quoi ?
Alors, c'est au moins de l'âge romain, mais on pense que c'est de l'âge préhistorique. Ça reste à prouver. Mais quand on a des filons à ciel ouvert, dans des endroits où tout le monde passait par l'école, parce qu'il faut bien penser que l'Arc, les rivières, n'étaient pas endiguées, et qu'on a de la métallurgie du bronze, donc des mines de cuivre, avec un peu d'étain qui vient d'ailleurs, déjà sur les sites palafiques du lac du Bourget, c'est bien qu'ils devaient prendre aussi le minerai pas trop loin pour le transformer, mais ça n'a pas été prouvé, en fait. Ça reste logique. J'aimerais bien. Il faut qu'on refasse des études. On va reprendre les objets du musée savoisien pour savoir d'où venaient voilà, quoi. Ces pièces légendaires. Bah, pour la part, vous avez peut-être vu, si vous avez pris l'autoroute pour redescendre la vallée, on a le nouveau panneau avec la grosse épée qui ne cassa jamais, la vraie épée du Randal. Parce qu'il y en a qui me disent « mais c'est une légende ». Bah, c'est comme la prise de la Bastille, hein. Le vrai jour de la prise de la Bastille, ils ont cassé une porte, ils ont volé deux canons. L'idée d'une légende, en fait, c'est de bâtir un mythe qui va faire la puissance après du seigneur, ou bâtir une identité nationale autour de quelque chose. Donc là, l'idée de l'épée du Randal qui ne casse pas, c'est qu'on dit que Charlemagne, qui est à l'époque roi, qui deviendra empereur en 773, passe par la Maurienne pour aller libérer le pape. Donc c'est une mission de la plus haute importance, et ça, c'est un fait historique avéré. Il passe devant trois mines de fer, à Alvar, aux Urtières et à Modane. Et dans les trois, il y en a une, au lieu qu'il n'y ait que du fer, celle de Saint-Georges-Urtières, c'est du ferro-manganèse. C'est un alliage naturel. Ça veut dire que quand on transforme ce minerai, il a la qualité de l'acier, alors qu'on n'a pas encore inventé le haut fourneau, qu'on ne sait pas passer le point de fusion du fer pour faire ça. D'habitude, on fait du fer-fer, pas du ferro-manganèse qualité acier. Donc ce qu'on se dit, c'est que forcément, quand il est passé, est-ce que c'est un ange descendu du ciel qui lui a remis l'épée, ou est-ce que c'était une petite fille blonde avec un bouquet ? Bon, c'est un ange qui lui a remis l'épée, incassable, qui confie à la meilleure position de l'armée, donc à son contre-capitaine Roland, pour défendre l'arrière-garde. Et la fin de la chanson de Roland, c'est ben, Roland qui, à Roncevaux, se voit entouré d'ennemis, et qui se dit « c'est fini pour moi, je sonne l'olifant, mais... » L'olifant ? Mais l'épée, il ne faut pas que je la laisse en fait, à l'ennemi. Il essaye de la casser, et là, c'est le rocher qui rompt, et ça fait la brèche de Roland dans les Pyrénées. Donc, comme il ne l'a pas cassée, il la lance, et là, normalement, elle est plantée à Rocamadour. Sauf qu'elle a été volée il y a 2 ans. Donc, l'enquête est toujours en cours.
Ils n'ont pas retrouvé ?
Non, c'est un facsimilé qui a été remis l'année dernière, mais ils ne l'ont toujours pas retrouvé. Comme quoi, les épées de légende. Et on en parlait avec un prof d'histoire, il me fait « oui, c'est comme la prise de la Bastille, c'est fait pour fédérer, pour dire il s'est passé quelque chose d'important et pour structurer en fait, un discours. » Donc dans le musée, si vous la cherchez, il y en a qui ne la voient pas. Elle est vraiment entre ombre et lumière parce que ce n'est pas une pièce de musée. De toute façon, c'est un facsimilé qu'on a nous aussi. Et, c'est pour expliquer ce qui tient vraiment en fait, de l'explication ou ce qui tient de la légende et ainsi de suite, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment des fées au fond des tunnels, comme ça, comme les sirènes au fond de l'eau qui attirent les mineurs ? Des choses à aller vérifier. Mais enfin. Du coup, il y en a qui veulent aller hop dans la mine ? On va se remettre au frais. Le problème, c'est qu'il faut y aller au fil. On ne dit pas bonne pioche tout de suite. Donc, autant le sentier des ardoisiers, il part du fond de vallée, il se fait bien, c'est une bonne petite boucle qui se fait en famille. Nous, ça commence à être sportif. Si vous faites une balade au col des Sarrasins, ça devient carrément, voilà, pour ceux qui ont déjà le pied montagnard. Mais c'est possible. Hein. Ou d'aller voir les entrées des grottes mines de la Colombière, ce sont au bord du chemin, sans rentrer dedans. Pourquoi pas ? En tout cas, demain, il y a les visites de carrière par l'extérieur. Parce que le gypse, les ardoises, il ne faudrait pas rentrer dedans, trop dangereux, on est d'accord. D'ailleurs, il n'y a aucune visite de mine de talc prévue non plus.
Quelle carrière ?
Alors, celle-là, c'est celle de Saint-Pancras. La visite que vous allez faire demain, c'est en passant par la droite. Et les navettes vous emmènent, en fait, c'est ma collègue Anne qui vous expliquera, sur la margelle. Et comme ça, vous avez la vue sur tout l'entier. De temps en temps, on peut faire des visites de carrière en rentrant dedans, mais c'est que 6 par 6, parce qu'il faut mettre les chaussures de sécurité, tout ça, il faut s'inscrire. Bah, comme pour visiter le chantier Lyon-Turin. Ça se fait une fois tous les un an et demi à peu près. Il y a des jours où ils arrêtent les machines et on peut y aller à 2000 dans le week-end. Et sinon, il faut se mettre par petits groupes, 6-8, voilà, un minibus en gros, hein, et prendre rendez-vous et avoir les chaussures de sécurité, les badges pour qu'ils sachent nous repérer dans le tunnel et tout. Ça se fait aussi, quoi, bien sûr. Parce que c'est important, ça répond aux questions des gens. Bah, vous avez peut-être suivi aussi la polémique, est-ce qu'on rouvre les carrières en Haute-Maurienne-Vanoise, parce qu'on en a besoin, en fait, du gypse. Pour isoler, pour faire du plâtre, pour faire plein de choses avec. Mais est-ce qu'on veut aussi l'impact socio-environnemental? Est-ce qu'on trouvera des gens pour bosser dedans? Est-ce qu'on se dit non, on est à l'entrée d'un parc naturel national? Du coup, on ne le fait pas. C'est quoi la pression? On en revient à la définition du début, en fait.
Bah, surtout que nous,
les arbitrages.
En Maurienne, on est quand même touchés. Bon, on a quand même tous les camions qui passent et qui travaux.
On est une vallée de passage depuis.
Bon, on a tous les travaux du Lyon-Turin. Donc, plus les carrières, c'est vrai qu'à un moment donné, ça commence à faire beaucoup.
Alors, soit on imagine qu'on a une richesse, et il y a des époques où c'était une richesse, soit on imagine qu'on veut garder maintenant, et que, puisqu'on nous impose du commerce international, peut-être que justement, ces roches-là, on peut les prendre en plein désert ailleurs, où ça impacte moins de population. Ou... Voilà, quoi. Parce que ne pas prendre le gypse là, à la porte de la Vanoise, ça veut dire qu'on va le prendre, je crois, au Maroc, à la place, ce qui a été arbitré, à vérifier. Et que peut-être il y a une population qui était vraiment au chômage et que ça intéresse et qui sont bien contents qu'il y ait des investisseurs étrangers qui investissent là-bas à vérifier. Hein. Mais il me semble que c'était ça l'arbitrage. Hein.
Toujours comme ça.
Bah, maintenant, c'est à échelle mondiale.
L'uranium, c'était ça.
L'uranium, c'était ça, voilà quoi.
Et la fluorine aussi.
Avec la pollution qu'elle est avec. Hein. Je ne sais pas, mesdames, si vous avez été enceinte en Maurienne, mais nous, ils ne nous prescrivent pas de fluor. Hein. Celle qui habite en Maurienne. Partout ailleurs en France, on nous prescrit du fluor. Ouais. Et les pollutions qui vont avec. Et, il y a eu une époque, ouais, mais pas en Maurienne. Non. Non, 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 non. Après, je ne sais pas quelle commune vous habitez aussi. Et puis même, ça impacte tout. Moi, j'ai acheté une maison. Apparemment, le four à pain, il est du 15e siècle. Hein. C'est une vieille maison. Des urtières, et ben pendant 3 ans et demi, là, j'ai pas eu l'eau potable. Parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un petit peu trop d'arsenic dans les tuyaux. J'en ai parlé à l'ancien propriétaire, il me fait, bah, tu vois, je suis pas mort, hein. J'en ai bu toute ma vie. Hein. Mais ça dépend des normes, et puis des travaux, et puis de ce qu'on exige maintenant, en fait.
Voilà, c'est ça.
Voilà, quoi. Après, on se dit, oh, ben, un musée, ça coûte cher à une commune, faut d'abord payer le réseau d'eau. Je suis concernée au premier rond, hein, donc je vais pas dire le contraire. Ça dépend vraiment en fait de toutes les implications qu'on a, qu'on veut. Et puis aussi pour faire comprendre que on est une vallée industrieuse, qu'on le veuille ou pas, en fait. Et du coup, il y en a qui nous disent non, Lyon-Turin, non, carrière, non, 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 on a des mouvements écologiques, on habite dans un paradis, c'est super beau, faut pas le casser. C'est pas en fait, ça va plus loin que ça en fait. C'est oui, on est d'accord qu'il faut préserver notre environnement, mais si on nous l'impose, comment on rebondit avec cette information? Est-ce qu'on demande que des contreparties? Comment on lance le débat? Comment en fait on peut contrebalancer ou pas dans certains cas? Et comment on s'empare du sujet en fait pour peut-être moins le subir ou... Franchement, la question est ouverte en fait.
C'est vrai que la base, c'est la richesse géologique qui fait la richesse.
Et les embêtements qui vont avec.
Oui, mais par rapport à la flore, corps, on a des montagnes, voilà.
Oui, oui, parce que la conclusion de l'année de la biodiversité, c'est quand même qu'il fallait dire géodiversité. Parce que la biodiversité, si tu prends que la faune et la flore, non, en fait, il faut penser au substrat. Enfin, votre terroir, votre vin, il a tel ou tel goût parce qu'il y a tel ou tel caillou en dessous, c'est pas la même chose. Il faut vraiment penser systémique. Et ce qui peut faire l'avantage à une époque peut faire l'inconvénient à l'autre. La famille de Savoie, c'est le seul département français, Savoie, que c'est un nom de famille. À l'époque, d'être portier des Alpes et de gérer le trafic, c'était vraiment du pain béni. Et c'est comme ça en fait, qu'ils ont fait leur position en Europe, alors que c'était des petits comptes par rapport au roi de France. Hein. ou duc, suivant la période. Alors que maintenant, d'être la voie de passage obligée pour un grand chantier avec une majuscule, hein, en termes de projets structurants, comme l'a été le tunnel sous la Manche au niveau français, ou maintenant le tunnel autour de Paris, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Du coup, on passe en politique locale, on passe en... Ouais. C'est ça. Ouais, on est guide du patrimoine, mais en fait, on fait de la politique, la géopolitique aussi en même temps.
Et tout ça, ça prend du temps.
Oui, et puis après, c'est à quelle échelle de temps on y réfléchit, quoi. Cela, la dame qui va donc sortir son livre sur la fièvre du cuivre en disant ça pourrait rouvrir ou pas, dans les années 70-80, ils avaient vraiment tout prévu pour rouvrir la mine. Et du coup, ils n'auraient pas repris le fer qui reste, pourtant une très bonne qualité. Hein. Charlemagne, lui, il aurait continué peut-être à prendre des épées de là, c'est plus rentable. Par contre, tout ce qui est cuivre, lanthane, césium, or, là, ça serait intéressant. Alors qu'à l'époque carolingienne, on n'aurait peut-être pas cherché le lanthane ou le césium. On ne savait même pas que ça existait. Ma foi. Il n'y a qu'une seule exception, quand même, dans toutes les substances que j'ai citées. Il n'y a pas de bauxite. Hein. On est d'accord. Il y a des usines d'aluminium parce qu'il y a beaucoup d'hydroélectricité. Voilà, mais il n'y a pas de bauxite dans les Alpes.
Il y a du midi.
Oui. Ou de l'étranger, les Baux en Provence. C'est ça, bauxite. Et là, on a la chance d'avoir le seul musée français entièrement dédié à l'aluminium, quand même, à Saint-Michel-de-Maurienne. Sinon, il y a d'autres musées en France, mais qui ne font pas que ça, quoi. Mais il est bien au niveau technique et il est bien au niveau esthétique aussi, même pour ceux qui n'aiment pas forcément le patrimoine scientifique ou industriel. Et en fait, rien que la collection, qu'on se dit que l'aluminium, quand ça a été créé, c'était un métal qui coûtait cher, des beaux couverts en argent, pour ça je rigolais quand ils ont fait ton cher, qui coûtait plus cher que l'or. Même c'est esthétique, en fait. On a amené des gamins comme ça qui disaient « Waouh, mais c'est beau là-bas, je vais les voir et tout, ça brille. » En général, de toute façon, tout ce qui brille. Hein. Justement, nous, pour les journées du patrimoine sur le musée, on a invité un cristallier à présenter son métier. Parce qu'en général, la question, c'est les gens, c'est « Est-ce que je vais trouver des beaux cristaux ?» Et non, on a trouvé des minerais qui ne payent pas de mine, d'ailleurs. Et on va expliquer la différence entre les minerais, les minéraux, les cristaux et tout ce vocabulaire-là. Il y en a qui creusent pour trouver des cailloux en eux-mêmes sans avoir envie de les transformer. Qu'on trouve des diamants, mais c'est toujours pas au programme. Hein. Parce qu'on peut dire les diamants, c'est une manne aussi quand on en trouve. Je vous renvoie au film avec Leonardo DiCaprio, c'est ça ? C'est violent. Ou même en France, hein. L'or en Guyane. Hein. Ça pose un sérieux problème environnemental et sociétal. Hein. Et on est toujours en France. Ah ouais.
Par rapport à la géologie locale, est-ce qu'on pourrait trouver du lithium ?
On ne va pas le dire. Par contre, avec Morienisez-vous, si ça vous intéresse, on a capté, une conférence sur les gaz de schiste. Parce que ça a été à l'actualité il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, hop, on va pas trop en parler. Hein.
C'est du charbon, on va pas le
voir. En même temps, ils ne sont pas encaissés dans les mêmes schistes. Il y a plusieurs qualités et tout. Donc, elle est aussi en ligne sur le site de Morienisez-vous. Hein. On essaye en fait de provoquer le débat et tout. S'il y a des sujets qui vous intéressent plus, si vous connaissez des socios professionnels. Comme je disais tout à l'heure, on a promu un auteur. Là, on a une nouvelle cristallière qui se met à son compte, qui fait des rochers polis aussi, tout dorés de pyrite comme ça. On la met à la une et puis voilà, comme ça, on fait connaître aussi les cailloux locaux. C'est pas que trois petits cailloux à shooter dedans, des fois. Souvent, on a la question, mais comment ils font pour découvrir des filons et tout? Parce que souvent, les gens, dans l'imaginaire collectif, on a la montagne, on a le terrain comme ça, on va faire un puits, on va descendre à la mine et puis on va prendre la veine. C'est germinal. C'est sur un terrain minier plat, c'est à Saint-Étienne ou dans le nord ou dans l'est. Là, on est en montagne. Donc on prend ça et puis... Voilà. Donc on monte à la mine. La seule partie plate, ça va être le couloir d'accès. Et après, on va suivre le filon en haut, en bas, en travers, en profondeur. Et on va essayer de doubler les autres. C'est un peu pour ça que vous avez vu des plans, des attaques de partout dans les montagnes. Ce n'est pas les mêmes imaginaires, en fait, du tout. Mais pourquoi pas ? Encore plein de choses à faire avec, à découvrir, pas forcément, mais à faire découvrir, à faire comprendre, oui. Ouais. Complètement. J'espère que vous avez passé une belle fête du gypse. Je ne sais pas si vous voulez visiter les carrières, il fallait s'inscrire. Il y a des départs qui sont déjà pleins. Par rapport à l'année dernière, ils ont rajouté des créneaux le matin quand même. Ouais, ouais. Je pense à l'accueil ou à l'office de tourisme. Ouais, ouais, ouais. Il y a des navettes pour vous monter, il y a plusieurs circulations.
Il n'y a pas longtemps, il y avait une porte ouverte là, en carrière.
Oui, oui, pour expliquer justement, c'est les panneaux tout neufs, ceux-là, par rapport à ceux de l'année dernière, pour expliquer l'extension. Ceux-là, vous avez la première zone, en fait, et puis la deuxième zone.
Qui est plus basse. Mm-hmm. Elle sera plus près de, en bas de la combe.
Voilà, oui. Elle sera plus sur la comble. Mm-hmm. C'est important pour les circulations de camions.
En fait, ils vont les faire passer en haut, les camions, pas en
haut. Oui, parce que ça peut remonter, les cailloux, puis ça peut repartir, et puis voilà. Là, il y a eu un reportage aussi sur la modernisation du transport avec des camions électriques. Donc, vous pouvez le retrouver sur Morienne TV aussi. Ouais. C'est vrai qu'ils ne font pas de bruit. Maintenant, tu les croises, tu fais c'était un gros camion. Et puis, quand on parle des conditions de travail qui changent. Ah oui, bah forcément.
Les voyez. C'est carrément, quoi.
Là, on en parlait aux portes ouvertes du Lyon-Turin, là, parce qu'il y a des sections, en fait, suivant chantier par chantier, hein, c'est découpé. Ils sont du tunnelier, mais il y a des sections, ils sont en méthode traditionnelle, comme on expliquait, nous, au 18e et 19e siècle. Hein.
La partie de
Et l'année dernière, ils me disaient qu'avec leur brise-roche et tout, ils faisaient des trous de 7 mètres et mettaient l'explosif et puis qu'ils avançaient 7 mètres en 7 mètres. Mais là, comme il y a de l'eau et qu'ils ont des soucis, que ce n'est pas les mêmes roches, ils avancent de 2 mètres en 2 mètres. Comme nous, il y a un siècle et demi. Comme quoi, les techniques, il faut s'adapter et tout. Mais quand même, ce n'est pas les mêmes conditions de travail, de formation, voilà. De choix de l'emploi aussi. Quand on dit « allez, tous à la mine ». Il y a des gamins qui n'ont pas tellement eu le choix dans les générations précédentes. Mmh. Bon, comme ils n'avaient pas forcément le choix d'aller à l'usine, hein, tu as 14 ans, tu as ton certif, tu vas bosser à l'usine. Hein. C'est vraiment en fait des situations socio-économiques. Voilà quoi. Dans le Nord, pour ceux qui ont lu Germinal, parce que des fois j'ai des ados, ils viennent de le lire, ils sont tous traumatisés. Ouais, oui, voilà. Ils me disent, mais les femmes, les enfants, tout le monde descendait, ils n'avaient pas le choix et tout. Alors qu'ici, il n'y avait pas de femmes dans les souterrains. Ça dépend vraiment des organisations sociales, en fait. Comme des fois, il y a du paternalisme, tout ce qui va avec, ils sont logés, il y a les corons et tout, il y a les médecins qui vont avec, les cantines, ou des fois pas. Nous, on assure la cantine au musée, ne vous inquiétez pas. Mais enfin, mais je suis désolée pour les conditions techniques. Il y avait un super écran l'année dernière, il a disparu. Voilà, voilà, voilà. Mais s'il y en a qui veulent, on peut le repasser là, on peut rapprocher des chaises et puis le refaire tourner si vous voulez voir les belles photos. Ou, sinon, je vous dis, demain, il y aura le gros album de toute façon sur le stand, comme ça, quoi.
Aussi. Vous avez un mail, vous contacter pour justement pour avoir votre...
Oui, oui, bah, de toute façon, je suis la seule salariée à l'année, donc c'est marqué, vous mettez info à grand filon ou direction, ça tombe sur le mien, mais de toute façon, même info, les filles à l'accueil, elles me le passeront. En été, on a des salariés en plus, mais sinon, voilà, comme ça, je peux vous l'envoyer, oui, avec plaisir.
Oui.
Voilà, quoi. Il n'y a pas de souci. Là, l'été, on a plus de départs aussi en visite et d'animation que le reste de l'année, mais sinon, c'est ouvert de Pâques à Toussaint. Donc, alors, on en a deux systèmes, nous, les guides touristiques, soit avec le petit audio guide et le casque, vous y allez tout seul, c'est tout éclairé, c'est tout plat. Ouais, ouais, dans la galerie, elle fait 100 mètres de long, mais c'est vraiment accessible à tout le monde. On peut y aller en poussette, en fauteuil roulant, après le restaurant, on y arrive.
C'est pas ça qui est sportif.
C'est pas, voilà. Et c'est là-dedans qu'on fait les skate games aussi, ne pas avoir trop peur et pas être trop loin. C'est et sinon, il n'y a pas besoin de réserver. Sauf le dimanche, parce qu'on le fait en visite guidée. Et sinon, il y a la visite sportive. Donc là, il faut forcément un guide. Il y a encore des places pour la visite de demain. Sinon, dimanche, mardi, jeudi. Ou sinon, on remet des guides en plus. Si vous êtes 4-6, vous voulez un guide pour vous ou pour une association, on part en plus à la demande.
Donc, c'est une grande promesse.
Et du coup, là, déjà, il y a 250 mètres de dénivelé. Donc, on met à peu près une heure dans la forêt. Messieurs, dames, si vous voulez témoigner. C'est un peu physique, mais on y arrive. On fait des pauses. Voilà. On l'a fait la semaine dernière. Et après, on reste une heure et quart, 1h20 dedans. C'est en trois parties. Comme on est guide touristique, on ne s'éloigne pas trop de la porte. On n'est jamais à plus de 250 mètres de la porte. Et on fait un parcours comme ça, en fait, un peu en étoile, pour avoir la partie haute, la partie basse et revenir. Quoi. Et s'il y en a qui sont vraiment sportifs et accros, on est en relation avec les BE Spéléo qui, ont, eux, en fait, vous mettent des combis, des cordes. Et ils font 6 heures d'activité. Ils vont vraiment dans les autres galeries avec les détecteurs de gaz et tout. Mais là, ce n'est pas les guides touristiques. Moi, je n'ai pas le diplôme. Je n'ai pas le droit de vous emmener là-bas.
Ah, d'accord, peut-être.
Après, si vous êtes entre vous et qu'il fait un groupe, ils ont tous 70 ans, on a déjà fait, hein. Pourquoi pas, hein. On a fait un anniversaire de 70 ans comme ça. Pourquoi pas, hein. Vous êtes peut-être moins, désolé. Le jour, le plus jeune avait 82 ans dans le groupe. Donc ça se fait encore, des fois. Mais il y a de quoi se faire plaisir en toute sécurité, si ça vous intéresse. Il y a les reportages, il y a les expositions, il y a des colloques, des publications de temps en temps. Voilà. Donc la petite formule, c'est vraiment juste le musée, si vous n'avez pas le temps de faire le tour du musée du fer. Voilà. Mais c'est plutôt le trio, voilà.
Avec la galerie Saint-Louis.
Voilà, avec la galerie Saint-Louis, l'ancienne école, l'ancienne chapelle, le musée du fer, le parc métallurgique. On essaye de faire des démonstrations de temps en temps.
Ça, sauf le dimanche, on est réservé.
Ben, le dimanche, en fait, vous pouvez le faire tout seul, où il y a un des départs qui est guidé, justement, parce qu'il y en a qui préfèrent des visites guidées que des audioguides ou des papiers, et dimanche, ça reste possible.
Oui, c'est fermé le lundi et
le samedi. On ferme le lundi, samedi, parce qu'on garde des créneaux pour les groupes, en fait.
C'est sûr.
Ouais, ouais. Et à partir de demain, on fait snack. Donc, soit vous amenez les pique-niques pour rester à la journée sur les Urtières. Vous pouvez faire une visite rando avant, vous pouvez aller voir les producteurs. 45 minutes. Merci.
Et voilà, un programme propulsé par l'association Mauriennisez-vous. Notre super pouvoir, c'est de faire briller la culture en Maurienne. Et oui, ça inclut aussi de parler de notre géologie. Parce qu'on a beau aimer les vieux cailloux et l'histoire de nos montagnes, promis, on sait rendre ça passionnant. Pour suivre le mouvement, rejoignez-nous sur les réseaux. Et si le cœur vous en dit, venez adhérer ou nous soutenir. Toutes les infos sont dans la description. On compte sur vous.